Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes.
Au menu aujourd'hui, Kaamelott, la suite. Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Alors, dans le précédent Previously, nous avons tiré un trait sur la série télé Kaamelott. Je dis bien, et chaque mot compte, la série télé Kaamelott. Ce qui ne signifie pas qu'une autre série, dérivée celle-ci, ne pourrait pas voir le jour. Ni que Kaamelott, en tant que telle, ne pourrait pas continuer ailleurs, car, comme Alexandre Astier me l'avait dit...
Je pense que j'ai relativement déjà pas mal poussé les murs du format télé. Je pense que ce que tu as vu là... C'est un peu le max. Je ne peux plus pousser plus loin. Les moyens, le moindre centime a été utilisé à l'écran. On a doublé les minutes par jour. On a fini comme ça. Là, j'ai besoin une fois un peu plus de place.
Car si Kaamelott, en tant que série télé, s'est achevée, l'histoire de Kaamelott est loin d'être terminée. Et celle d'Alexandre Astier aussi. Car il ne faudrait pas croire que l'homme s'est reposé sur ses lauriers, glande en touchant les royalties de sa série, et cela coule douce. Pas du tout. Rien qu'en 2010, c'est-à-dire il y a 11 ans de cela, voilà comment il me résumait son emploi du temps.
Alexandre Astier, ton actualité en ce moment, c'est quoi ?
Je cherche à vendre une série à la télévision qui s'appelle Vinzia, sur une pègre italienne en France. J'ai terminé la réécriture de mon film Madame Carlson pour Isabelle Adjani. Je devrais tourner ce film au mois de mars. Je suis en écriture du premier long métrage de Kaamelott. Je suis en écriture de l'adaptation d'un album d'Astérix pour un projet animation 3D relief pour le cinéma avec M6 Studio. Et je crois que c'est à peu près tout. Je viens de finir l'écriture de la 5e BD de Kaamelott qui va sortir pour les fêtes. Et voilà.
Et avec le recul, à cette liste, j'ajouterai les spectacles seuls en scène Que ma joie demeure, ou les Jean-Sébastien Bach, et l'exoconférence sur la vie sur d'autres planètes, et qui sera d'ailleurs rediffusée sur Paris Première le dimanche 18 juillet prochain, soit 3 jours avant la sortie du film. Il va co-réaliser donc 2 Astérix animés, Le Domaine des Dieux et Le Secret de la Potion Magique, et pour la bande dessinée Kaamelott, dessinée par Steven Dupré, il écrira 9 albums à ce jour. Ça, plus les différentes apparitions et collaborations, mais il n'y a pas marqué Wikipédia non plus, hein. Donc, on est en 2010, de retour à Scénariste en série, la manifestation de Marie Baracco, mais cette fois-ci, il en est le parrain. Et je profite de l'occasion pour sortir ma carte impertinence, et avec sa complicité et son autorisation, je lui pose des questions volontairement provocatrices.
Bon, alors, est-ce que tu penses pouvoir refaire rire les gens un jour avec Kaamelott, quand même ? Est-ce que tu penses que les gens rigoleront à nouveau avec Kaamelott un jour ? Parce que franchement, lors de la dernière saison, ils ont un peu plombé.
Est-ce que j'ai... Par exemple, quand j'écris les bandes dessinées de Kaamelott, elles sont devenues, sans que je m'en rende compte, le terrain de jeu de Perceval et Caradoc. Vraiment, c'est eux les héros. Là. En fait, c'est ça la grande différence entre la BD. Donc eux, il me semble que c'est drôle. Et les films au cinéma sont censés raconter quand même le retour d'Arthur. Et oui, je me retrouve maintenant avec l'envie de faire rire. Je ne peux pas te promettre. Ça va faire rire, mais j'ai retrouvé l'envie de faire rire parce que j'ai fini de raconter ce que j'avais à raconter de sombre.
Est-ce que pour un artiste, aller de la comédie vers le dramatique, c'est une promotion ?
Non. Pour moi, aller de la comédie vers le dramatique, c'était une façon de dire merde à ceux qui voulaient que je fasse rire absolument. Tu veux que je complète ? Non, parce que je n'aime pas ce qu'on fait de la comédie en France, notamment à la télé, c'est-à-dire la promesse de faire rire me semble assez vulgaire, en fait. Je veux bien faire rire, mais comme une espèce de... Comment dire ? Tu sais, quand on te livre une pizza et que le mec te donne un litre de Pepsi en prime, parce que tu commandes souvent des pizzas. Mais pour moi, le rire, c'est pareil. La pizza, c'est la pizza. c'est l'histoire, c'est le drame, parce qu'il n'y a pas d'histoire sans drame. Il y a le fond de la narration que tu veux raconter et ton truc. Et si jamais le mec veut t'offrir en plus un demi-litre de Pepsi, ça ne tient qu'à lui, mais ce n'est pas une promesse.
Bon, après la façon dont MC s'est débarrassé de la dernière saison de Kaamelott, tu retourneras les voir un jour quand même ?
Je suis déjà retourné les voir. Je suis retourné les voir pour leur rendre ma prochaine série et ils sont venus me chercher pour adapter un album d'Astérix au cinéma en 3D relief. Donc, nous nous entendons à merveille.
Ouais, la langue de bois.
Je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai, nous nous entendons très bien. Et je vais te dire, j'ai été extrêmement surpris parce que je sais que j'ai un peu mis des coups de pied dans le machin. Je sais qu'ils auraient voulu plus drôle, plus accessible, moins fan art que ce que j'ai fait. Ils sont fiers de Kaamelott. Il y a des audimates qui sont un peu descendus. Les DVD se sont vendus comme des petits pains. Bon, ça rattrape un peu le truc. Mais non seulement ils m'en veulent pas, mais il y a une affection entre nous de frères, quoi. Des fois, on s'engueule, mais il y a une vraie fidélité.
Est-ce que tu préfères être bridé créativement, mais être vu avec des millions de téléspectateurs, ou être un peu plus libre, faire ce que tu as envie, mais par contre, là, être sur une chaîne petite ou être beaucoup moins vu ?
Je préfère être libre complètement sur une grande chaîne publique.
Ce qui n'est pas joué.
Ce qui n'est pas gagné, mais j'ai quand même réussi une fois à le faire. J'ai fait absolument ce que j'ai voulu sur une grande chaîne publique hertzienne. J'ai changé mon format, j'ai changé le ton, j'ai raconté ce que j'ai voulu, je suis passé de court à long. J'ai fait absolument ce que j'ai voulu. Je suis d'accord avec toi, il n'y a absolument pas gagné que je puisse refaire ça. Même maintenant, en plus, les gens se méfient de moi. Encore pire. Le pire objet dérivé de Kaamelott qu'on m'ait proposé, c'est d'associer la marque à une viande surgelée. Donc, on est sur la viande, la bonne bouffe, slash la ripaille médiévale, slash les mecs qui en ont et qui vont guerroyer, festoyer. Voilà, ça devait être un peu le plan marketing de la truc susnommée. Donc, j'ai dit non. J'ai dit non aussi à une banque qui voulait que le roi Arthur atterrisse dans le bureau d'un banquier pour promouvoir une carte pour les jeunes, machin, etc. J'ai dit non. Alors, quand je dis j'ai dit non, on s'est assis sur un paquet d'argent, on est d'accord. Mais ça n'est... Alors, après, les produits qui ont existé, comme je surveille de ça de très près, il n'y a rien dont je sois honteux. J'ai beaucoup aimé même notre partenariat avec Quick, et les repas enfants de Quick où il y avait un calendrier, un mug, un t-shirt, mais on avait vraiment bossé le graphisme, le truc, le bidule. J'étais content et même je suis allé les 4 semaines de promotion avec mes gosses manger du Quick pour avoir les trucs moi-même parce que je les avais pas.
Bon, mine de rien, là, on rigole, mais on en apprend pas mal, hein, sur le mélange comédie-dramatique, sur ses relations avec M6, sur sa vision de la télévision, sur le fait qu'il n'avait pas les suppléments des menus Quick. Oui, c'est essentiel. En 2012, Alexandre nous fait l'amitié, à Romain Nigita et à moi, de participer à la grande manifestation du Comic-Con Paris, en donnant une masterclass, mais pas que.
Un peu de cette masterclass, c'est de passer en revue tout ce que tu fais, notamment sur Kaamelott, puisque tu occupes quand même un tas de postes différents. Évidemment, acteur, scénariste, réalisateur, compositeur de la musique.
D'habitude, on se passe un projet de poste en poste jusqu'à ce qu'il soit fini, et là, c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il faut m'attendre tout le temps. Je préfère organiser de mieux en mieux le fait de faire beaucoup de choses moi-même plutôt que de déléguer, qui pour moi est me séparer de la seule chose qui me donne envie de faire ce métier. Ce serait trop bête, non, vraiment.
Ce qui permet donc de faire la liaison avec un logo que vous avez vu ici au Comic-Con et qui a un peu circulé sur Twitter.
C'est sympa, ça.
Mais qu'est-ce que c'est ?
Donc cette masterclass est terminée. Ça me fait rien, vous êtes 4000, j'ai un aplomb, je m'en fous, c'est marrant. C'est Kaamelott Résistance, voilà. Kaamelott Résistance, qu'est-ce que c'est ? quelle forme ça prendra, cette histoire-là. Je sais que ce sera déjà une série de nouvelles. Ça, c'est sûr et certain. Non, la Comic-Con a une exclusivité, là, à partir du moment où on a fini cette petite master.
Exactement.
Il y a une exposition Kaamelott Résistance au milieu du stand qui est ouverte à tout le monde.
Bon, ben là, c'est clair, je crois qu'il faut faire une ovation à notre roi, monsieur Alexandre.
La situation telle qu'elle a été laissée en fin de saison 6 suggère donc une situation d'occupation avec tous les paramètres que ça nous inspire à tous. Donc un gouvernement tyrannique de la part de Lancelot et des clans qu'on connaît sous la coupe d'un régime totalitaire qui ont à choisir leur position. Est-ce qu'ils vont résister? Est-ce qu'ils vont collaborer? Est-ce qu'ils vont rien faire du tout? Est-ce qu'ils vont être passifs, actifs? Est-ce que ça va les inspirer? Est-ce qu'ils vont comprendre la situation, déjà, pour nombre d'entre eux? Et en fait, cette situation, elle devait constituer le premier acte du premier long-métrage. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais une trentaine de minutes, parce que voilà, c'est ce qu'un acte 1 doit représenter sur un film de 2 heures, en gros. Et la situation m'a tellement plu. Je trouve ça tellement rigolo ce que ça peut faire à chacun d'entre eux. Et ça, c'est, en plus de ça, c'est très compartimenté comme situation, parce que chacun réagit vraiment de manière très différente. Ça m'a tellement plu que j'ai trouvé ces 30 minutes, cette promesse de 30 minutes insuffisante. J'ai eu envie de raconter plus que ça. Et j'ai eu envie de raconter plus longtemps une situation où Arthur n'est pas là, puisqu'il a fui le pays. C'est très thématique avec Kaamelott pour moi, parce que Kaamelott, c'est très simple. Dans les deux plateaux de la balance du méchant et du gentil, chez le gentil, qui est Arthur, il y a la fédération, il y a rassembler, il y a fédérer, dans le sens noble du terme, pour arriver à trouver quelque chose, le Graal en l'occurrence. Et puis dans le plateau du méchant, il y a l'élitisme, virer ceux qui servent à rien, uniformiser l'armée, uniformiser le pays, les règles, l'autorité plus que la souplesse, etc., la main de fer plutôt que le progressisme, tout ça. Et en fait, dans ce plateau de balance là, il y a Lancelot et tout ce qui, voilà. Et dans ce plateau de balance, Arthur est carrément pas là. Et plus j'encourage le fait que Lancelot transforme le royaume, plus le retour d'Arthur va être puissant, parce qu'il va avoir à faire un ménage considérable. Et son caractère de sauveur va être d'autant plus important que le pays aura été ravagé par cette occupation. Donc augmenter cette période, c'est aussi faire monter le plateau du méchant sur la balance afin que le renversement soit plus fort quand ce sera le moment.
Mais tu as expliqué que c'était un projet destiné au livre et éventuellement, si M6 pouvait en faire un téléfilm ou
une spéciale.
Je pense que tu vas pouvoir convaincre une chaîne de télé de faire un Kaamelott sans voir Arthur, sans toi.
C'est le projet. Arthur est...
C'est gonflé.
Ah, c'est... Oui, on enlève le héros de la série. Alors, est-ce qu'on parle de spin-off? Je sais pas. En tout cas, il y a un truc de sûr, c'est que le sujet Arthur est très présent, puisque c'est la préoccupation première de Lancelot que de le retrouver. Donc... Il lance tous ses sbires dans tous les sens pour le trouver. Il y a Vennec, le bandit Vennec de Kaamelott, qui est censé avoir conduit Arthur en dehors du royaume, qui est recherché aussi pour pouvoir être questionné. Donc le spectre d'Arthur est là. Il est là tout le temps même.
Mais la tête de Gondol n'est pas là.
La tête de Gondol n'est pas là. Non, même si j'imagine que s'il y a un spécial, il y aurait probablement un truc évoqué de sa part, même comme ça.
Alors, là, c'est très... Jusqu'à quel point penses-tu que tu peux pousser une chaîne à dire « Je ne veux pas apparaître dedans, je veux... » Et investir dans un projet dans lequel la star n'est pas là.
Eh bien...
Alors, je vais reformuler les choses. Tu penses que tu en as la force, tu penses que l'histoire peut suffire, tu penses que tu peux être assez convaincant pour ça. tu vois ce que je veux dire, quoi.
Je crois que Kaamelott a une vie sans Arthur, en tout cas temporairement, à partir du moment où il y a des clans qui sont très identifiés et qui ont obtenu la sympathie du public, même plus que la sympathie. Il y a même, je ne sais pas si Arthur est la star de Kaamelott finalement. C'est celui qui a le leadership, mais pas forcément le leadership affectif. Je veux dire, il y a des personnages qui sont aimés pour leur naïveté, pour leur comme Perceval, comme. Et dans les BD, par exemple, c'est pas forcément Arthur qui est au centre du truc, parce que les BD ne prennent pas... C'est pas la saga, la BD. La BD, elles sont toutes contemporaines du livre 1. Donc, y a pas, ils avancent pas dans l'histoire. Arthur, c'est le moteur de la narration, de l'avancée dans l'histoire, c'est-à-dire tous les mouvements du royaume jusqu'à la découverte du Graal. Tout ça, c'est un long mouvement, et c'est par ses yeux que ça se voit. Résistance, c'est une période entre deux, en son absence... de bordel, c'est le bordel. Et le bordel, pour moi, c'est l'émergence. Il y a une tête qui sort, il y a un autre clan qui fait ça, il y a un autre clan qui essaie ici, il y a celui-là qui collabore, il y a celui-là qui machine, il y a des attentats, il y a des trucs. Et c'est tout ce bazar-là, en l'absence d'Arthur, pour moi, me semble l'occasion, en plus de ça, beaucoup de comédie. C'est-à-dire que pour moi, ça, c'est un moment drôle pour moi. Même, peut-être même plus drôle que quand Arthur est là et qu'il a à gérer ça. Tous ces découragements et puis tout ce qu'on sait de la saison 5 et tout ces... là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas la dépression. Là, il y a... tous les mecs sont en action, quoi. Ce qui compte, c'est que, par rapport à la structure, en l'absence d'Arthur, ce soit le bordel qui règne.
Mais les mois passent et pas de Kaamelott Résistance en vue. Le premier film Kaamelott, par contre, commence à se concrétiser, après des différends juridiques et des différends de budget. Bon, maintenant ça y est, la trilogie est donc en route, oui parce que c'est une trilogie, et le premier film Kaamelott, retardé à cause de la pandémie, sort en salle le 21 juillet 2021. Je ne vais pas insister ici encore plus lourdement que je l'ai fait au début du previously précédent. On parle donc ici d'un film de cinéma, d'un film fait pour être vu en salle de cinéma avec un grand écran et pas pour être découvert par des moyens pas très valorisants pour l'œuvre. Non seulement le film repose sur la distribution de la série, Thomas Cousseau dans le rôle de Lancelot, Anne Girouard dans celui de Guenièvre, Lionel Astier en Léo Dagan, Joël Sevilla en Dame Célie, Jean-Christophe Imbert, Caradoc, et son compère Perceval, incarné par Franck Pilot, Jacques Chambon alias Merlin, mais le film repose aussi sur Sting, Antoine Decaune, François Rollin, Clovis Cornillac, Géraldine Nakache, Guillaume Gallienne, Alain Chabat. La série télé a donc pris fin en 2009 et le film va tenir compte de ce temps passé. 10 années se sont en effet écoulées. Arthur s'est réfugié loin du pays de Lot et n'a absolument pas l'intention de revenir et encore moins de redevenir roi. Donc, d'extraire Excalibur du rocher, alors là, c'est très 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 loin de ses objectifs. Par contre, Lancelot est à sa recherche et dépense sans compter pour le débusquer. Pourquoi tant de haine? Surtout pour un roi déchu qui, de lui-même, cède sa place à Kaamelott à Lancelot.
10 ans qu'on n'a plus vu son pif. Il est cané, le fils Pondragon, on le sait tous.
Évidemment qu'il n'est pas mort. Ça fait 10 ans que je vous le dis, gros salsifis.
Mon Dieu, partout les saints.
Non, commencez pas. Je suis absolument pas roi, il n'y a pas besoin de se lever.
Alors, comme je l'avais fait en 2005 en me rendant à Arcueil, pour recueillir les propos du créateur de Kaamelott, référez-vous au précédent Previously, je me rends là sur les Champs-Élysées, mais je vais pas vous dire exactement où, parce que c'est là que Alexandre nous attend. Alexandre, bonjour, parce que ça fait depuis 2 Previously qu'on n'arrête pas de t'entendre. Donc là, le film sort le 21. Bon, c'est quand même un petit peu particulier. Le héros de ton film est un héros malgré lui. Un ex-roi qui n'a absolument aucune intention de le redevenir, ou est encore moins d'être à nouveau impliqué dans le destin du royaume. Et pourtant, Arthur est de retour à l'insu de son plein gré, quoi.
Absolument. En fait... Je pense pas que quoi que ce soit puisse le remettre sur le trône, à part les éléments qui se déchaînent contre lui. Je n'ai jamais imaginé deux secondes que ça puisse être de sa propre volonté. Ça colle pas. Ça peut pas être un mec qui a envie de revenir.
À ce point-là ?
Non, parce que déjà ça lui coûte. C'est un gars que la charge abat. Je pense que c'est tout ce qu'on lui colle sur le dos, la quête du Graal, le fait de s'occuper de la table ronde, de s'occuper de tous ces mecs-là, de s'occuper tout autant du trivial que de galvaniser ses troupes, etc. Je pense que c'est un truc qui le met vraiment down. Psychologiquement, c'est un truc, au bout d'un moment, il a envie de lâcher le sac à dos. Il l'a déjà fait en livre 5.
Ouais.
Et je ne vois pas comment est-ce qu'il pourrait se réveiller de sa planque un jour en disant « Oh tiens, j'y retournerai bien ». Pour moi, c'est pas absolument pas possible. Ça ne peut être que malgré lui.
Et là, c'est vrai qu'il y retourne, mais complètement changé. C'est pas du tout le même. Et de toute façon, c'est dans tout le film, ça ne va pas être le même. Alors, tu précises que bien que tu avais les grandes lignes des films écrits depuis longtemps, le premier d'entre eux nécessitait de savoir qui tu étais. Je mets ça entre guillemets, de transposer ce que tu ressentais au moment où tu écrivais, ce qui est la démarche de tout auteur, de mettre de soi dans ses œuvres, mais est-ce que cela signifie-t-il quand même que ce premier volet aurait été radicalement différent 5 ans plus tôt ?
Oui, absolument. Il aurait été complètement différent parce que je ne sais pas ce que j'aurais écrit. Là, j'ai écrit selon ce que j'avais envie. Et par exemple, ce que je peux dire, c'est que en écrivant ce film, j'ai eu envie d'une espèce de tri. C'est-à-dire qu'en fait, il revient, mais il y a quelque chose de rédempteur là-dedans. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la structure d'un film que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup étudié avant d'écrire ce film, qui est Unforgiven, impitoyable donc, parce qu'il y a quelque chose de la rédemption, c'est-à-dire qu'en fait, il y a les mecs qui sont restés de son côté, en son absence, et il y a les mecs qui sont passés de l'autre côté. Et lui, il arrive en disant, pour une fois, en essayant de trancher très net entre ceux qui sont de son côté et pas de son côté, ceux qui méritent par leur acte de résistance, etc., de faire partie peut-être d'une nouvelle équipe plus tard, on va voir, et puis ceux qu'il faut totalement éliminer. Il est là dans un esprit de dératisation, voilà.
Carrément, à ce point-là.
Ah ben oui.
Oui, non mais oui, en plus oui, bien sûr, mais...
Tu te souviens de la fin, il fait pas ça proprement.
Clairement, on est bien d'accord. Entre l'année 2005, où tu imaginais déjà que Kaamelott se déploie au cinéma, on a les preuves, et aujourd'hui, il y a quand même eu un phénomène télévisuel qui a rendu le genre heroic fantasy populaire et grand public. Bon, en tout cas, bankable. As-tu senti un effet Game of Thrones sur le projet, sur son montage, ou même sur ce que tu allais pouvoir te permettre de mettre dans un film ? Parce que c'est ça quand même qui a changé entre temps.
C'est vrai. Alors, je n'ai pas regardé Game of Thrones moi-même. Mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses que Game of Thrones
a calmé. Il y a eu un impact sur le grand public, sur tout le monde.
Absolument. Enfin, voilà. Et puis sur les productions en général,
voilà.
Parce qu'il était question, en tout cas en France, que, je cite, j'ouvre des guillemets, le costume, ça ne marche pas. L'époque, ça ne marche pas. Le problème, c'est que bon, quand on a affaire à des assertions comme ça, on a un peu envie de dire, attendez, ce n'est pas parce qu'il y a eu des trucs pas bons en costume qu'il faut condamner le costume et qu'il faut tout balancer sous prétexte qu'il y a des trucs qui ont raté. Mais non, ils ont la preuve, ils ont toujours la preuve que ça n'a pas marché. Game of Thrones a calmé beaucoup ces enjeux-là.
Absolument.
Parce que d'un coup, c'est un engouement ultra mondial, ultra... Tout le monde aime l'heroic fantasy. C'est peut-être dit aussi aux gens qu'on changeait de génération, qu'au bout d'un moment, ceux qui étaient des gamers de jeux de rôle ou de machin à l'époque et qui ne valaient pas un clou en pouvoir d'achat, comme on dit, étaient passés dans la catégorie des mecs qui payaient les DVD chez Carrefour.
Tout à fait, c'est complètement ça.
Et donc voilà.
Mais est-ce que ça a influencé sur ton écriture ? Est-ce que ça a influencé sur le film ? Est-ce que, je sais pas, des financiers t'ont dit « Bon, écoutez, vous allez faire un film d'heroic fantasy, mettez-moi un dragon dedans, et puis ça marche. » Enfin, tu vois, je sais pas, je peux imaginer des trucs sordides. Hein.
Non, non, parce que Kaamelott a quand même... Kaamelott, c'est quand même une comédie. Le Stamp, c'est une comédie. Avant tout ça, alors effectivement, c'est une comédie qui essaye de faire cohabiter plusieurs genres. C'est un peu la difficulté du truc. Mais c'est quand même une comédie. Et donc, du coup, l'heroic fantasy, c'est presque... c'est presque encore un truc dont il faudrait se méfier. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'il y en ait trop, il ne faudrait pas que d'un coup... moi, je ne crois pas à ça, mais je n'y croyais pas tellement avant. Donc non, je pense que ça n'a pas changé ma façon de faire. J'ai toujours confiance en l'aventure, en l'heroic fantasy. J'ai toujours cru en ça. Et je crois que des petits personnages de comédie, un peu inopérants et un peu insuffisants, tels que j'aime bien les écrire, sont très heureux à l'intérieur d'un monde héroïque fantasy. Ils l'ont toujours été, ils le seront toujours. Le fait qu'il y ait d'un coup un crédit apporté à un truc comme Game of Thrones, je trouve ça mortel. Mais Game of Thrones, c'est pas français. Je sais pas si Game of Thrones aurait pu naître en France.
Ah, je pense que non.
Non, je pense clairement que non.
Enfin, déjà, toi, tu as repoussé les murs et les barrières avec M6 et tu as profité de la situation, mais je pense qu'on n'aurait pas pu faire un truc à la Game of Thrones.
Je crois pas.
Alors, on sait que la musique est absolument essentielle pour toi. Tu as aussi composé celle du film. Tu incites tout le monde à l'écouter avant de voir le film. Je confirme. Il faut l'écouter avant de voir le film. Elle est cruciale, bien plus même que ce que l'on peut imaginer. Mais ce qui m'a vraiment bluffé, c'est que tu as fait orchestrer la musique sans qu'elle soit synchronisée au prémontage.
Oui.
À savoir, c'est toi qui as monté ton film en fonction de la musique et pas l'inverse. Bon, tu sais quand même que c'est pas comme ça que ça se passe d'habitude.
Non, c'est pas comme ça que ça se passe d'habitude.
C'est dans le monde des musiques de films ou de séries, ça ne fonctionne pas comme ça, tu sais ça.
Ça, je sais. Alors, j'ai fait autrement. Non, mais parce qu'il faut quand même profiter du fait que ce soit le même mec qui monte et qui compose et qui réalise. C'est pas mal que ça puisse concéder quelques avantages. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des musiques qui ont eu lieu avant, à l'état de maquette. Ensuite, il y a eu le tournage. Ensuite, il y a eu du montage et il y a eu des maquettes sur le montage. Donc, en fait, quand on est allé enregistrer l'orchestre, la seule chose qu'on a gardée du montage, c'est des points de tempo. C'est la seule chose qu'on a gardée. Donc, on vérifiait juste avant, avec Frank Strobel, le chef, à l'Orchestre National de Lyon, on vérifiait avant une prise qu'on était sur, en gros, le point de tempo qui était prévu. Mais sans clic, sans image, il dirigeait le morceau comme il l'aurait dirigé dans un concert, comme il l'aurait dirigé dans... Voilà. Et puis après, je reprenais ça. Et on vérifiait qu'on n'était pas trop parti du tempo.
Ouais.
Donc, j'ai récupéré chez moi des choses qui étaient proches tout de même, cousines de ma maquette, mais qui avaient une vie dedans, c'est-à-dire avec des autorisations de petits accélérando, de décrescendo, voilà, avec pas au clic, comme on dit. On n'a pas fait ça au métronome. Et du coup, après, en reprenant le montage, en recollé les événements, c'est moi qui ai remanipulé l'image et le film pour qu'ils correspondent à la musique. Donc, c'est plutôt une série d'allers-retours qui différencie ce travail-là, effectivement, du travail plus classique du compositeur de musique de film qui reçoit le montage quasi fini,
ouais,
et qui colle dessus et qui se débrouille pendant l'enregistrement de la musique avec sa baguette et le film sous les yeux à tirer vers l'avant, tirer vers l'arrière, aller chercher la synchro et qui est un truc très intéressant aussi, hein, somme toute, mais qui est dur et qui est pas toujours dans le sens de la musique, qui est plutôt dans le sens du film.
Absolument. Donc là, est-ce que je pourrais dire que tu n'as pas réalisé un film avec de la musique, mais tu as réalisé de la musique avec un film?
Oui. Ah bah complètement.
On est bien d'accord.
Surtout qu'en plus de ça, tu l'as remarqué, la musique, c'est même un personnage du film.
Ah complètement. Elle est omniprésente. J'incite tout le monde, enfin je veux dire, c'est essentiel de voir ce film dans une grande salle, sur un grand écran, avec un grand son.
Ce serait bien.
Ce
serait bien.
Oui, et pas simplement sur son smartphone quand ça sortira. Voilà, non,
absolument.
Voir dans une grande salle.
J'aimerais bien.
Alors justement, après ce premier volet, viendra donc le deuxième.
Si le premier volet obtient un petit peu de sympathie du public.
Mais attends, j'en suis sûr, et de toute façon, voilà, on œuvre pour ça, et de toute façon, il est formidable. Donc voilà. Bon, si je me fie à Saint-Georges Lucas,
oui,
et à sa seigneurie Star Trek, c'est quand même l'Empire contre-attaque et la colère de Khan qui sont devenus des chefs-d'œuvre dans des trilogies fantastiques. Et tout. Alors moi, je dis ça, c'est pas du tout pour te mettre la pression. C'est pas du tout pour dire que le premier film est pas bien. Loin de là, parce que quand même, le premier Star Trek cinématographique et le premier Star Wars sont quand même de très grands films.
Oui.
Mais tout de même,
oui,
quand on arrive au deuxième, est-ce que tu nous prépares ton Empire contre-attaque à toi ?
Eh bien, en fait, j'aurais adoré, parce que je pense effectivement que les actes 2, c'est finalement des actes 2, hein, les deuxièmes
films. Absolument.
Donc, ils contiennent ce que tout acte 2 classique contient, c'est-à-dire l'ordeale, à savoir le pire qui puisse arriver. La fin de l'Empire contre-attaque, c'est catastrophique.
C'est une catastrophe.
Le mec a perdu sa main, on ne sait pas où ça va aller, bref. Je pense que J'aurais adoré me glisser comme ça sur un fil où le deuxième m'amène naturellement vers le bas, où le conflit comme ça explose dans un truc et où l'avantage n'est pas au héros, en gros.
Ouais.
Le problème, c'est que je pense que le 1 est un acte 2, dans ce cas-là. Parce que c'est ce qu'on appelle des structures inversées. C'est toutes les histoires où le héros avait décroché, mais où on l'oblige à revenir pour un dernier truc. Et donc, ces films-là,
tu
comme
as déjà fait l'acte 2 quelque part, un peu avant. Oui, oui, alors, oui, je comprends.
Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que comme ce 1 constitue quand même une épopée qui rassemble autour d'Arthur ce qu'on pourrait deviner comme son équipe d'après, ouais, qui est constituée de gens connus et pas connus, et de gens de nouveaux et fidèles, il s'agirait quand même que ces gens, je ne veux pas trop en dire, mais il s'agirait quand même que ces gens se distinguent, prouvent leur valeur.
Ouais.
Parce que c'est quand même la tradition à la table ronde que de dire qu'on vaut quelque chose et qu'on y mérite sa place. Donc, j'ai l'impression, au contraire, que le 2, bizarrement, est plutôt orienté sur la volonté de tous ces gens-là de se distinguer avec le talent, comment dire, aléatoire qu'ils ont pour se faire.
Oui, c'est gentiment dit, aléatoire. Oui,
donc j'imagine que ce serait plutôt un film, malheureusement, un peu joyeux.
Bon
Pas que, mais il va avoir une couleur de... Il va avoir une couleur épique d'aventure avec un S. Voilà.
Bon, bah, tu diras ça à Georges. Hein.
Bah, je lui dirai,
oui.
Tu
mais... comptes avec lui, hein, je veux dire.
Absolument, je lui dirai à Saint-Georges et le dragon.
Merci beaucoup, Alex.
Merci. Yes.
Voilà, vous n'avez plus qu'à réserver votre place de cinéma à partir du 21 juillet prochain. Sans rien vous spoiler, je peux vous dire que vous serez surpris, un peu en dehors de votre zone de confort, de vos attentes, parce que Kaamelott est de retour, et de façon magistrale. Previously va prendre une pause estivale. Profitez bien, regardez quelques films, et surtout plein de séries, des bonnes, des nouveautés, mais aussi des classiques, des productions qui marquent et ont marqué l'univers des séries télé. À vous de jouer. Ce podcast est disponible sur les plateformes Deezer, Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox et Overcast.